Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Une Heure en Série, saison 2. Déjà l'épisode 33. On ne voit pas le temps passer. Une Heure en Série, l'émission, vous le savez, qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries, toutes chaînes et plateformes confondues. Et ce soir, bon programme, puisque nous parlerons versatilité sexuelle et flamboyance pailletée avec la Véléno sur la plateforme Brut. Et là, je les vois déjà se réveiller tout autour de la table, rien qu'à l'annonce de ce programme. Polar urbain et chute de Saddam Hussein dans Bagdad Central sur Arte. Et enfin, bouclier de l'invisibilité et collant moulant, on y revient, voilà, dans Falcon et le soldat de l'hiver sur Disney+.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et avec nous ce soir, en direct du Palais Vivienne, bien sûr, où nous attendons les eaux plats du chef Christophe Leroy, si on en croit ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas l'air de valoir 220 € quand même le repas, on est bien d'accord. Donc très gentiment, ils y ont renoncé, ils ont décliné l'invitation. Ils sont avec nous ce soir, vous avez déjà pu reconnaître les voix, Ava Kahn de Frenchmania.
Bon, salut Xavier, salut tout le monde.
Tout va bien ?
Tout va bien, mieux avec vous toujours.
Marianne Lévy, le grand écart, petite voix mais féroce dans ses opinions. Marianne Lévy, bonsoir.
Bonsoir, il maestro de Royal Pearl.
Et un tout petit peu, effectivement, votre contraire, c'est-à-dire grosse voix, mais aimant tout presque. Oh, Benoît Lagarde, que l'on peut retrouver le vendredi dans le 5-7 de Mathilde Munoz.
C'est ça.
Et dans Télé Matin, on a un peu de courrier. Alors déjà, message personnel, oui, je sais, ça ne se fait pas, mais quand même. Je vais remercier P17L17.
Oui.
Voilà. Voilà, qui est un internaute, qui est un fidèle de l'émission.
Sur Twitter.
Et qui m'a envoyé via Twitter. Alors, je n'y suis pas. Donc, c'est grâce à Benoît et Marjolaine Boutet que j'ai su, effectivement, qu'il m'avait envoyé cette recommandation musicale, la version de Pomme, qui interprète Désenchanté, le tube de Mylène Farmer. Donc, merci P17L17. Je suis désolé de vous appeler comme ça. Ça fait un tout petit peu site de rencontre. Voilà. Mais nous avons du courrier. Pas moins sérieux. Déjà, un courrier de Claire Richard. En cette période plutôt déprimante, elle nous conseille de voir ou de revoir la série Marvel FX Légion. Effectivement, elle a raison, c'est formidable. Comme nous allons parler d'une série Marvel tout à l'heure. Dans la même veine que Vendavision, on plonge dans un univers magnifiquement complexe et très esthétique. Elle a tout à fait raison. Effectivement, c'est une excellente série inspirée par l'univers Marvel et celui des X-Men. Nous avons un courrier de Quentin Delost. Bonjour, j'ai écouté votre émission. Et comme d'habitude, je me suis régalé. Oui, là, je fais un petit clin d'œil, voilà. En revanche, je suis très honnête que vous ne fassiez pas référence à la très belle série Sneu, qui bien avant It's a Sin, c'est à propos effectivement du débat que nous avons eu sur la série Canal, qui avant It's a Sin parlait du problème dramatique du sida avec comme acteur principal Adam Pelson, qui deviendra plus tard le jeune Valander. Voilà, quelqu'un qui pourrait venir nous rejoindre, quelle connaissance. Alors c'est vrai que j'ai oublié effectivement de citer cette série suédoise dont le titre français c'est « N'essuie jamais les larmes sans gants » qui était effectivement ce que se recommandaient entre elles les infirmières lors de l'arrivée des premiers malades atteints du sida dans les hôpitaux. Et elle est disponible en France sur le site Outplay, qui est un site spécialisé justement dans les films et les productions LGBT. Allez, encore 3 secondes puisque le courrier est très contextualisé. Patrick Stragier nous dit, vous allez parler de Bagdad Central samedi prochain, donc aujourd'hui. La série est en ligne sur la plateforme d'Arte. Malheureusement, ce qui est présenté comme la VO est en fait une version anglaise. On y entend les protagonistes irakiens parler entre eux en anglais, c'est vrai, avant même l'invasion des troupes états-uniennes, ce qui est totalement ridicule. La vraie VO est bien entendu une version qui mélange l'arabe et l'anglais selon les interlocuteurs. Alors, j'ai l'impression qu'on a eu un mélange, parce que moi j'ai eu effectivement des épisodes où ils parlaient tous anglais et des épisodes où la langue arabe était audible. Donc c'est vrai que voilà, pourquoi Arte n'offre-t-elle pas la vraie version originale ? Je n'ai pas la réponse, Benoît.
Non, moi je pense que j'ai l'impression qu'en fait c'est une série anglaise, donc en fait c'est en anglais, avec des moments effectivement où il y a la langue arabe qui est très présente malgré tout, il y a des moments, mais effectivement l'essentiel est en anglais. Et quand on la regarde en français, en fait, ils ont gardé la même idée, c'est-à-dire que c'est en français quand c'est en anglais dans la série et sinon en arabe quand c'est en arabe.
C'est quand même étrange qu'entre eux, une famille irakienne parle en anglais, par exemple. Mais bon, allez, on se réserve tout cela pour le débat. Pour l'instant, nous commençons avec La Veneno sur Brut. Donc la nouvelle plateforme, inspirée donc par Brut, les journalistes. C'est une série espagnole de 8 épisodes inspirée des destins véridiques de la plus grande transgenre espagnole et de sa biographe officielle. La Veneno nous replonge dans l'Espagne des années 80. Apprenant que La Veneno arpente nuitamment les rues de sa ville, la jeune Valeria, née garçon mais qui s'est toujours rêvée en femme, part à la rencontre rencontre de son idole et profite de cette opportunité pour entamer sa transition. La Veneno, objet de pur fantasme et tabou interdit, née dans l'Espagne rurale, ayant fui cette campagne aride ainsi qu'une mère accablée par le manque de virilité de son fils, pour devenir la vedette des lieux de tapin où elle régnait avant de devenir une star scandaleuse de la télé poubelle. Petit écran qui va la sacraliser mais aussi l'instrumentaliser, une série biopic. Alors tour à tour, camp, furieuse, fluo, salace, qui pique les yeux, trash d'un mauvais goût assumé et pourtant jamais elle ne tombe ni dans la vulgarité ni dans le racolage, à la manière un peu des premiers films de Pedro Almodovar, et c'est un immense compliment dans ma bouche, une série qui ne s'excuse jamais de ses excès et se fout complètement de la bienséance.
Señoras y señores, aquí esta noche, Cristina, la Veneno.
Sí, llámame Cristina porque mi nombre no es Veneno, es un apodo.
Ahora vamos a hablar de la Veneno, su imagen tan distinta a la de hace 10 años. Ha vuelto.
Qué fuerte. Cristina la Veneno.
La Veneno, la Teratele.
Oye, soy fan, ¿eh? Y me encanta.
¿Veníamos buscando a Cristina?
Es que nos han dicho que está aquí arriba.
No tan informa malamente.
¡Eh! ¿Eres tú mi fan?
Soy yo.
Il fallait bien deux Xavier, oui, c'est vrai.
Javier.
Pour dresser le portrait hors norme de cette femme décédée il y a 5 ans, puisque la série est écrite et produite par Javier Calvo et Javier Ambrosi, couple à la ville comme derrière la caméra. Ils risquent pas d'oublier leur prénom, au moins comme ça. Pas moins non plus de 3 femmes, Redette, Daniela Santiago, puis Isabel Torres, pour interpréter la Veneno à des âges différents. Et enfin, dans le rôle de la jeune Valeria, donc la biographe de la Veneno, on trouve Lola Rodriguez, qui est une jeune femme transgenre et grande militante de la cause. Pour Télérama, c'est une série au punch libérateur, et pour l'hebdomadaire Elle, c'est une série politique et délicieusement too much. Est-ce qu'on lui donne la parole en premier ? Parce que je sais que le soir venu, il ne déteste pas mes talons hauts.
Vous allez, vous faites moi ma vie, c'est génial. Eh bien, écoutez,
je lui offre un peu de piquant et de piment, hein. Donc,
écoutez, prête à légende, voilà. Benoît.
Pour moi, c'est la belle et touchante vraiment surprise de la semaine, la Veneno. D'autant plus que quand on rentre dans le premier épisode, ça part un peu dans tous les sens. C'est très. Ça parle vite, comme dans, souvent dans les séries espagnoles, hein, de toute façon. Ça parle vite. Yana, on ne sait pas trop par quel bout ça prend le sujet. Est-ce que ça va être une série sur la télévision?
Non.
Est-ce
que... Par quel bout ça prend le sujet? Vous n'étiez pas obligé, Benoît. Ça s'était mis dans les 7 secondes, ce débat.
Bref, on ne sait pas, justement, au départ, quand on entre dans cette série, je peux le dire, ça aussi?
Oui.
quel est l'angle d'attaque, voilà, de la série La Veneno? Est-ce que c'est un biopic? Est-ce que c'est une série qui critique la télévision, qui va critiquer la télévision? Parce qu'au fond, il y a tout ça dans cette série. Et puis, très vite, on est vraiment embarqué avec ce personnage. Le personnage de Valeria est très touchant parce que, en fait, ce qui est fort, et toute la série, il faut l'expliquer, fonctionne sur l'aller-retour entre le parcours de Valeria et le parcours de Cristina. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça évite la série de tomber, par exemple, dans quelque chose qui pourrait très vite aller dans la caricature, par exemple, parce qu'on voit qu'en fait, la vie des trans n'est pas que ce qu'il critique, ce monde-là, peut être. C'est-à-dire, forcément, le monde de la nuit, forcément, la musique disco ou des choses comme ça, enfin, qu'on a tellement vu et revu dans des fictions. Et là, la série va beaucoup plus loin. Et c'est une grande série sur l'Espagne aussi. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on voit effectivement la Movida très présente, notamment dans les années de la Movida. Et puis, moi, voilà, c'est une série, donc la dimension sur la télévision m'a beaucoup intéressé sur la façon dont cette télépoubelle a fait finalement des vertus. Moi, c'est ça que j'ai découvert, avait des vertus de donner la parole à des gens, même si elle les a ensuite instrumentalisés et malheureusement maltraités.
Ce qui est intéressant dans la comparaison entre Valeria et la Veneno, c'est qu'il y a aussi deux époques. C'est-à-dire que la Veneno n'a pas été opérée. C'est des injections sordides, dégueulasses, avec des produits immondes, alors que Valeria va bénéficier d'une certaine ouverture quand même, et d'une hospitalisation, enfin du coup d'une prise en charge hospitalière qui permet effectivement quand même une transition nettement plus digne de ce nom. Ava Cahen.
Bah, je rejoins Benoît. Hein. Non, c'est une vraie belle découverte. Merci Une Heure en Série. Moi, j'ai passé un moment vraiment exceptionnel.
Merci
génial.
À Brut hein, qui me l'a, ouais, qui m'a invité à la programmer très vite.
Tu le disais, elle est bavarde, cette série. Elle est pleine d'inventivité et de fantaisie à la fois dans la mise en scène et dans la façon de faire récit. C'est exactement la Movida qui embrasse à pleine bouche et avec du rouge à lèvres, on y va, le théâtre tragique. C'est le langage cru de la rue, c'est le langage chaud de la nuit, c'est le langage pop du clip aussi. Donc moi j'aime vraiment tous les contrastes que la série dessine et le franc-parler évidemment de ces drama queens. Alors pour tout vous dire, j'ai été très émue par le regard que la série porte sur ce personnage de la Veneno parce que vraiment il est empreint d'amour en fait et de tendresse ce regard. Et ça je trouve que la série le rend extrêmement tangible. Déjà on découvre la Veneno à travers les yeux d'enfant de Valeria, à travers la télévision et je trouve qu'on ressent bien son émotion et sa fascination. Et lorsqu'elle va la revoir des années plus tard en chair et en os, et ben elle a toujours en fait les yeux qui brillent alors que la Veneno a perdu de sa splendeur. Donc voilà, je trouve que c'est très beau, c'est un superbe portrait de femme, de cette femme qui est une battante, qui est une grande gueule. C'est un très beau portrait aussi de Valeria qui, comme vous le disiez Xavier, appartient à une autre génération, à un autre milieu social et qui est consciente et reconnaissante en fait des combats que ses aînés trans, qu'elle appelle ses sœurs, d'ailleurs ont menés et lui ont permis d'être la jeune femme qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà, la série rend très très bien compte à travers les allers-retours dans le temps et ces deux trajectoires de la condition des femmes trans, j'imagine Marianne que tu vas en parler aussi, de l'évolution des mœurs et des représentations dans la société espagnole, et puis le côté aussi regard sur l'industrie télé, la télé poubelle, celle qui fabrique des idoles et en même temps qui les détruit au besoin de l'audimat, donc c'est vraiment très très fort, très puissant. Coup de cœur.
Petite recommandation, méfiez-vous du dernier épisode, on ne le voit pas venir et c'est des torrents de larmes qui l'accompagnent. Marianne.
Ah oui, j'ai pleuré, Xavier.
Vous avez un cœur?
Ouais. C'est de la découverte.
Je préviens Maria Melkordi qu'elle l'intègre au journal de 21h. Ouais. Allez-y.
Je préviens mes enfants s'ils écoutent l'émission Votre mère a un cœur. Oui, alors moi aussi, c'est un énorme, enfin, c'est un énorme coup de cœur. C'est, pour moi, c'est un chef-d'œuvre, cette série. C'est pas un mot que j'emploie souvent. Quand on parle des séries. J'ai beaucoup réfléchi et pour moi, j'avais envie de... Comme vous savez, comme j'aime les fêtes, les trucs symboliques et tout, je me suis dit, en fait, finalement, c'est le 14 juillet, cette série. Hein. Un 14 juillet sériel, c'est un feu d'artifice d'émotions, de questions, d'humanité. Moi, elle m'a pris aux tripes, elle est remontée au cœur et elle a fini dans mes neurones. Je trouve que c'est une série sur l'identité, sur les blessures de l'enfance, sur la filiation, sur l'assignation à résidence.
Ça,
et
c'est
surtout, c'est une série sur la liberté. Je trouve qu'elle devrait être enseignée dans toutes les écoles d'écriture sur les séries, parce qu'elle a exactement toutes les qualités qui permettent à une série de rester un objet qui vit avec nous, et c'est quand même la fonction initiale de ce qu'on appelait le feuilleton au 19e. Son premier point fort quand même, c'est l'époque qui n'est jamais un prétexte. Suivez mon regard, vous saurez à quoi je pense. L'époque dit quelque chose du chemin que font les personnages. Deuxième point fort, la réalisation totalement bordélique. Hein. Mais en fait, elle est
très maîtrisée.
Mais elle est bordélique comme les souvenirs qu'on s'invente. Du coup, elle prend un sens. Les interprètes, elles sont bluffantes. Elles sont attachantes. On les aime toutes. On oublie le côté sordide de leur vie qui a été super dur quand même.
Mais on le voit.
Mais vraiment, il y a cette histoire de fraternité.
On voit les bois sordides.
Voilà, mais il y a la fraternité, il y a la solidarité, il y a ces femmes qui ont besoin les unes des autres pour vivre. Je trouve qu'elle saute à pieds joints dans la comédie, Xavier. Pas pour occulter, mais pour militer. Parce que ce qu'elle affirme, la Veneno, c'est que la manière dont on choisit de raconter sa vie est plus importante que ce qu'elle est. Et je terminerai en citant Paca, la meilleure amie de Christina, qui demande « Tu veux vivre quelle vie ?» Elle demande ça à la jeune Valeria. La vie réelle ou la vie fantasmée ? Ben moi, je trouve qu'après avoir vu les 8 épisodes, c'est impossible de répondre autre chose que « Vivre, c'est rêver ».
Parce qu'on a envie d'y retourner. Benoît, trois secondes.
Oui, juste pour dire, parce que Marianne parle de la vie fantasmée, effectivement, c'est très bien montré, ça. Et d'ailleurs, il y a un bandeau au début de la série qui dit que c'est adapté en fonction des souvenirs d'eux, mais que c'est peut-être un peu inventé. Et en fait, il faut lire ce panneau au départ, parce que vous allez voir la suite, vous comprendrez.
Stop, c'est une merveille, mais on n'a plus le temps. Non, désolé, Marianne, c'est moi le méchant cette fois-ci. La Veneno sur Brut.
No puedo más que pensar en ti. tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte, no aguanto más sin comerte entera. Comerte entera. Comerte entera. Comerte entera.
Essa mina é perigo.
Mel Tarantera par Tangana, extrait du nouvel et deuxième album intitulé El Madrileño, de ce chanteur et rappeur madrilène, donc, vous l'aurez compris, de 31 ans, qui est déjà une star dans son pays, mais on ne demande qu'une chose, et qu'il le soit également de par chez nous. Un album et un titre qui, comme on vient de l'entendre, fusionne de nombreuses racines et influences de la musique latine. Et c'est vrai que ces musiciens viennent un peu partout de l'Amérique du Sud et qui célèbrent ben, cette mélancolie sensuelle typique de cette musique qu'on adore. Vous verriez à Val, elle frissonne.
France Inter. Une heure en série.
Et le livre que je vous ai dégoté pour accompagner La Veneno m'a autant enthousiasmé que la série. Ça s'appelle Entre les jambes, de l'autrice Ouria, paru aux éditions Nouvelle Attila. C'est votre âme qui monte au ciel, pas votre chatte. Voilà, en exergue, le résumé de ce livre, beaucoup plus intéressant, entre guillemets, même si j'adore cette phrase. Donc, le roman d'Ouria. Donc, remarquable maison d'édition, quand même, citons le Nouvel Attila, qui est un choix éditorial absolument imparable. La preuve avec ce roman qui débute avec la naissance, dans les années 70, à Marrakech, d'un petit garçon intersexué. Sa mère rejette immédiatement l'enfant, qui est confié aux soins de son grand-père et de sa grand-mère. Couple, on ne peut plus désuni, qui se déteste cordialement. Lui est français, donc le peuple ennemi, colonialiste, qui ne croit qu'à la littérature, aux poètes et à Baudelaire. Elle est une femme musulmane, féroce, intransigeante, enfin, surtout dans les apparences, car dans la réalité, elle a un amant beaucoup plus jeune qu'elle et répare contre rétribution les hymens déflorés avant le mariage. Donc on l'aime un peu quand même. Un couple qui va écarteler l'enfant, enfant qui les regarde, croupissant dans leur hypocrisie et leur haine réciproque, sans jamais parvenir à choisir son camp. Un enfant caché, mais que sa grand-mère protégera lorsque l'imam voudra en faire un bon petit musulman de sexe masculin. Un enfant sans identité à qui la littérature et l'amour des livres transmis par le grand-père permettront de trouver plus tard, une fois arrivé en France, sa place. Un roman à la première personne, à la fois bouillonnant, lyrique, révolté et incantatoire, comme la voix intime d'une narratrice qui brocarde sa différence comme une armure, comme une identité gagnée et non pas attribuée. C'est incandescent, c'est bouleversant, c'est tragique, autant que cocasse. Bref, c'est une réussite. Entre les jambes de l'autrice, donc Ouria, paru aux éditions Nouvelle Attila. Deuxième débat, Bagdad Central, donc une série anglaise diffusée sur Arte depuis le 8 avril et disponible sur le site de la chaîne jusqu'au 7 juin. Une série qui avait été présentée il y a 2 ans, c'est ça Benoît, Sérimania.
Oui.
L'action se déroule à Bagdad en 2003, quelques semaines après la chute de Saddam Hussein. Ça peut dire que la capitale est sous tension. Les troupes américaines et britanniques, qui ne s'entendent pas nécessairement, envahissent les rues de leurs chars, peu enclins à respecter les habitants considérés comme des ennemis en puissance. Et dans ce climat délétère de tension extrême, où tout peut dégénérer en une seconde, que Kadhafi, ex-policier de la garde officielle de Hussein, ayant démissionné à la suite de l'exécution de son fils, se lance à la recherche de sa fille disparue. Pris par mégarde pour un autre, il est torturé par les forces de l'oncle Sam avant que les Anglais ne lui proposent de collaborer avec eux en jouant les agents doubles dans la Green Zone, enclave hautement sécurisée où se trouve le nouveau gouvernement irakien et l'ambassade des États-Unis.
Oui ?
Mourouj, c'est oncle Nidal. Il faut que je parle à ton père. C'est au sujet de Southson.
Je sais pas quoi dire, je me sens responsable.
Et les amis de Southson, quand est-ce qu'elles l'ont vu pour la dernière fois ?
Ses amis de la fac qui suivent le même cursus disent qu'elle n'assistait pas au cours, pas régulièrement.
Tu n'étais pas au courant ? Tu n'avais rien remarqué ?
Il aurait fallu que je la suive tous les matins ? Ou que je la questionne tous les soirs ?
On la croyait, elle parlait de ses cours.
Je suis pas son père, moi.
Nidal, je sais que tu n'es pas son père, c'est moi son père. Ça lui est déjà arrivé de ne pas rentrer de la nuit ?
Non, jamais.
Sauf quand on était prévenus. Quand elle allait chez quelqu'un de confiance.
À quelle heure elle est partie de chez vous hier ?
À l'heure habituelle, 7h du matin.
Elle s'en va tous les matins ?
Oui.
Bon, alors elle va forcément quelque part, ailleurs qu'à l'université.
Entre film noir et thriller géopolitique, Bagdad Central est une série scénarisée par Stephen Butchard, auteur du script The House of Saddam, livre sorti en 2008. Côté distribution, on retrouve Valid Zuhaiter, qu'on avait vu dans Altered Carbon ou dans The Spy, ainsi que Corey Stoll, qu'on avait vu dans The Strain. Qu'est-ce que vous venez de faire, là, Ava ?
J'ai fait oui, Corey
Stoll. Ça frissonne, ça ronronne ce soir.
Parce que c'était Hemingway dans Minuit à Paris aussi, voilà. Bon.
Il était un méchant assez sexy dans Ant-Man aussi, le film Marvel. Bon, bref, voulez-vous bien, Ava, revenir à notre série ?
Avec plaisir. Bah non, mais alors, pour tout vous avouer, moi j'y allais un peu à reculons vis-à-vis de cette série, qui est un petit peu moins anxiogène que Homeland, qui est quand même le modèle de référence en termes de thriller géopolitique, mais c'est quand même vachement haletant, c'est très piquant, et finalement je trouve que la série ne ménage pas ses spectateurs, donc c'est une heureuse surprise. La mise en scène m'a parfois fait penser à celle de séries policières italiennes comme Romanzo Criminale et Gomorra.
C'est pas donc, faux, ouais. J'y avais pas pensé, mais ouais.
Bah voilà, de bonnes factures, donc ça secoue, la caméra elle est portée la plupart du temps, je trouve que les scènes d'action sont bien menées, mais ce qui m'a surtout plu en fait, c'est qu'on adopte le point de vue d'un père de famille irakien, ex-inspecteur de police, intègre, veuf, chamboulé comme la plupart de ses concitoyens par la crise politique que traverse le pays. Et d'ordinaire, ben, on adopte plutôt le point de vue occidental. En réalité, sur ce genre, les choses sont présentées comme cela. Et je pensais d'ailleurs au film Green Zone de Paul Greengrass qui montrait ça. Donc voilà, ça c'était le premier bon point. Le deuxième, c'est la qualité, évidemment, d'écriture de la série, les situations, les personnages, les dialogues. Il y a évidemment le contexte politique et cette instabilité qui facilite le travail aux fauteurs de troubles et de chaos. Et puis, il y a une intrigue policière menée en parallèle qui va nous conduire à des réseaux obscurs de prostitution. Je n'en dis pas plus. Il y a cette phrase qui m'est restée en tête. Les femmes dans l'Irak d'aujourd'hui ont pris l'habitude de disparaître. Et je trouve que cette phrase, elle nous occupe beaucoup l'esprit et elle occupe aussi beaucoup l'esprit de ce père de famille qui cherche donc sa fille. Donc non, très haletant et très très bonne surprise.
Je valide complètement. Benoît, Bagdad Central.
Oui, je suis complètement d'accord. Partez. Une bonne surprise. Moi, je me souviens quand on avait vu les deux premiers épisodes à Sérimania, j'étais sorti un petit peu inquiet. Je trouvais que c'était intéressant, mais j'avais un petit peu peur qu'on nous emmène dans un 24 heures chrono. Voilà. Et or, heureusement, la série va beaucoup plus loin que ça. Et au fur et à mesure des épisodes, la série prend de l'ampleur. Ouais. À la mesure, par exemple, de ces scènes du flic avec son chauffeur de taxi. J'en dis pas plus, mais elles sont magnifiques, ces scènes. Ces échanges qu'ils peuvent avoir, l'amitié qu'ils vont créer. C'est-à-dire que c'est une série qui, au fond, joue avec l'action, et Ava l'a dit très bien, sur les scènes d'action qui sont très bien menées, mais aussi sur ces petites petit temps d'échange, d'amitié, de regard, de... La vie continue malgré la grande affaire géopolitique.
Ça, c'est... Et l'impossibilité de faire confiance à qui que ce soit.
Tout à fait.
Et donc bien, ça, c'est vachement beau et vachement bien mis en scène dans la série. Et puis le deuxième point, c'est effectivement ce regard renversé. Non seulement on suit un policier irakien, mais il y a...
C'est un salaud, parce qu'il faisait partie de la garde rapprochée de Saddam Hussein.
Ça questionne, la notion de collaboration.
C'est ça.
Il est donc collaborateur parce qu'il était flic au temps de Saddam, et il est collaborateur parce qu'il va travailler avec les Occidentaux. Mais ça renverse aussi le regard qu'on peut avoir sur les Américains.
Absolument.
Qui est le plus méchant, l'Américain ou l'Anglais ? L'Anglais ou l'Américain ? Toute la série se positionne comme ça sur ces questions et renverse en permanence, et c'est ce qui en fait une série bouleversante.
Et en plus, extrêmement bien mise en scène, avec une reconstitution qui n'a pas coûté des millions et qui en même temps est vraiment contextualise complètement le lendemain de la chute de Saddam Hussein. Chère Marianne.
Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment la chute là sur la manière dont la série reconstitue l'Irak. Mais moi, je pense que c'est une série de filous humanistes ou d'humanistes filous pour cette raison. Parce que ça marche complètement alors que c'était hyper casse-gueule. Parce que c'est quand même une série anglaise écrite par un anglais à partir d'un roman anglais qui raconte le quotidien d'un Bagdad occupé du point de vue d'un Irakien. Donc, c'était pas gagné cette affaire.
Je vois où vous situez la filouterie, effectivement.
Mais ça marche complètement parce que c'est une série spéciale dédicace, Xavier, juste ce qu'il faut. Ça peut paraître petit, le juste ce qu'il faut, mais en fait, c'est parfait.
C'est très juste.
C'est ambitieux, parce qu'elle réussit l'hybridation des genres, ce que disait Ava. C'est un thriller géopolitique, et en même temps, c'est une quête intimiste, d'où la scène magnifique avec le héros et le chauffeur de taxi. La collusion est audacieuse, mais elle est réussie. Et je pense qu'elle est réussie parce que ça évite le piège de la série Wikipédia. Vous savez, la série qui nous dit tout sur tout d'un conflit, d'un événement historique. Donc les amateurs de docu vont être frustrés, parce qu'ils ne trouveront pas du tout leur compte. Mais en revanche, les gens qui aiment les séries et la fiction, ils vont être servis parce que les personnages sont très beaux, très touchants. On est en immersion. Et c'est vrai ce que tu disais, Ava. Moi, je trouve qu'on a l'impression de regarder les Irakiens regarder CNN par les deux. Et du coup, pour la première fois, on voit les choses d'un autre point de vue que le nôtre.
On en prend conscience.
Et voilà. Et en fait, on le ressent parce que c'est une série qui est viscérale, qui est charnelle, qui est.
Oui, qui sent la sueur, la douleur physique.
Hein. Et la filouterie de la reconstitution vient aussi de. Elle emprunte à Fauda, cette série israélienne qui met en scène la tragédie du conflit israélo-palestinien, dans sa façon de filmer, comme ça, caméra à l'épaule. Ils sont malins parce qu'ils n'ont pas tellement d'argent, donc ils restent très 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 près des personnages et on marche avec eux en fait, on respire avec eux, on transpire avec eux, notre cœur bat avec le leur.
Surtout ce père de
famille. Ce père magnifique. Et ce que j'adore, c'est que la série évite un truc qui est dramatique, je trouve, quand on aborde des enjeux géopolitiques, c'est le une minute pour les uns, une minute pour les autres, balle au centre. Alors là, la balle, elle n'est pas du tout au centre, elle est totalement avec ce père de famille. Et je suis moins sévère que vous sur lui. Je n'ai pas l'impression qu'il ait été un collabo, j'ai juste l'impression qu'il a essayé de
faire... Non, il est donné comme tel sur cet échiquier.
Oui, il est présenté comme tel.
Mais on a
six
épisodes.
Oui, mais on sent bien qu'il a fait ce qu'il a pu et que ça lui a coûté la vie de son fils, quand même.
Ce que Benoît a dit, d'ailleurs, c'est quoi la définition d'un collabo ? C'est toujours plus facile après qu'avant de choisir son camp. On a encore une poignée de secondes que je me permets de prendre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que on dit toujours le cinéma contre la télé contre le cinéma. Ça, au cinéma, ce serait réduit. La série télé nous permet d'approfondir les nuances, les opacités des personnages et de prendre le temps, par exemple, pour filmer les checkpoints.
Mais oui.
C'est-à-dire la lassitude, les gens qui s'entassent comme ça, qui agitent leurs papiers en espérant passer de l'autre côté, l'humiliation qu'ils subissent au quotidien et la répétition de ces scènes-là, alors qu'au cinéma, une seule aurait suffi, eh ben, elle fonctionne extrêmement bien pour dire le quotidien des Irakiens. C'est tout. C'est fini. On vous la recommande. Bagdad Central sur Arte et Arte TV.
commence à tout mélanger. Par qui, par où commencer? Je m'en mêle les pinceaux. La mémoire me fait défaut. La chronologie de l'été. S'il a vraiment fait chaud, j'inverse toutes les dates et je confonds les gens. Est-ce le ressac des vagues ou le cerf-volant? Une chose est sûre, tu étais peu bavard.
Flash par Bonnie Banane, extrait de l'album Sexy Planet, paru en novembre dernier, un titre où la chanteuse et comédienne tente de raviver une mémoire imparfaite et les souvenirs d'un amour passé, mais pas encore tout à fait très passé, le tout accompagné d'une mélodie langoureuse où cordes célestes et percussions terrestres se télescopent dans une douce harmonie.
France Inter, une heure en série.
Et voici le moment venu de l'effet miroir de Benoît Lagan, où l'actualité est racontée par une série, un épisode, un personnage ou une scène culte, et aucun hommage au prince Philippe. Non. Ça, c'est votre côté républicain.
Tout à fait.
Alors que la question de l'euthanasie a fait l'actualité des débats parlementaires cette semaine en France, pas tout à fait le même sujet, même si prince Philippe, euthanasie, je ne sais pas, vous ouvrez le dossier qui lui a aussi souvent intéressé les auteurs de séries de télé.
Exactement, on peut même dire que dans les séries médicales, c'est un marronnier, tant le thème de l'euthanasie soulève de nombreux enjeux et de tensions dramaturgiques intéressantes. Et des séries, effectivement, me sont revenues en mémoire suite à la proposition de loi débattue difficilement jeudi, parce que vous savez, il y a eu 3000 amendements pour contrer la proposition de loi. Moralité, il n'y a qu'un article qui a été voté à la fin de la journée. Un débat qui pourrait influencer pas mal de scénaristes, tant l'euthanasie et le débat éthique qu'il sous-tend peut apporter au récit.
Et vous avez donc pensé à 3 séries en particulier qui ont évoqué ce sujet.
Oui, et j'ai d'abord pensé à Mary Kills People, une série qui raconte l'histoire d'une urgentiste qui, en toute illégalité, accepte de venir en aide à des patients qui souhaitent mourir selon leurs propres conditions. Vous imaginez bien, tension dramatique, dès le début de la série, sa petite entreprise sera menacée, la police enquête sur ses étranges activités. Et là où cette série est intéressante, c'est une série canadienne, c'est au-delà du suspense inhérent aux thrillers policiers et médical, c'est parce que se joint un question plus moral. Mary Harris, l'urgentiste qui aide des patients très malades à mourir dignement dans le secret, n'est pas là pour faire un business, même si tout cela est rémunéré, mais c'est plutôt par conviction. Mais alors, qui est Mary ? Ange ou démon dans son activité secrète ? Où est le bien ? Où est le mal ? Bref, est-ce bien moral ? Des questions que bon nombre de séries médicales ont soulevées elles aussi, pour faire réfléchir les téléspectateurs. Et la série hospitalière qui a sans doute le mieux interrogé la question, c'est Chicago Hope, une série concurrente à Urgence. Chicago Hope a été lancée le même jour et à la même heure aux États-Unis. La grande différence entre ces deux séries, c'est que les questions éthiques sont à Chicago Hope ce que les enjeux sociétaux étaient à Urgence. Pas étonnant donc Chicago Hope, parce que, face de cela, parce qu'elle a été pensée écrite par qui ? Par David Ikele, l'ancien avocat, avant qu'il crée Ally McBeal ou The Practice. Et alors, exemple, épisode 8 de la saison 1, le charismatique Dr. Aaron Schutt demande à l'infirmière d'augmenter les doses de morphine dans la perfusion de sa patiente dont il est très proche. Elle comprend assez vite, l'infirmière, qu'il s'agit d'une euthanasie dissimulée. La patiente n'est d'ailleurs pas n'importe quelle patiente, puisqu'il s'agit du docteur Karen Antonovitch, qui vient d'apprendre qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. L'infirmière alerte du coup la direction de l'hôpital et s'ouvre un débat au sein de l'hôpital, un comité d'éthique sur l'euthanasie. Ça, c'est les grandes séries de David Kelly, comme il savait les faire. Parce que la question que soulève finalement cet épisode, c'est que à l'hôpital, on soigne, on guérit, mais on n'y donne pas la mort, ou du moins on fait tout pour l'éviter. Et David Kelly a prolongé en fait cette réflexion avec une autre série qui m'est venue à l'esprit, c'est la série Picket Fences, alors qui avait été traduite en France par des titres un peu étranges. Hyde Secret City, la ville du grand secret, ou alors un drôle de shérif. Il n'y avait pas de drôle de shérif, et puis il n'y avait pas de grand secret. Le shérif, il était juste père de famille, voilà. Sa femme était médecin, ses enfants allaient au lycée ou à l'école. En fait, c'était une série policière, une série médicale, une série juridique, une série familiale. En fait, c'était un peu tout ça, et tout se finissait ou au tribunal. Et dans un épisode intéressant, encore un épisode 8 d'une saison 1, étrange, dans l'épisode
8,
intitulé...
c'est l'infini, c'est la mort qui nous taraude.
Peut-être. L'épisode est intitulé « Mort sans douleur ». Suite au décès mystérieux d'une personne âgée, a priori donc un suicide assisté, les soupçons se portent sur une religieuse. Et où comment David Kelly vise juste en ajoutant au débat, outre le regard du législateur, du représentant de l'ordre et du médecin, celui du religieux, et peut-être à étudier de près parmi les 3000 amendements pour s'opposer à la loi sur l'euthanasie. Faudrait voir un petit peu les profils des personnes qui ont déposé ces amendements.
Merci beaucoup, cher Benoît, d'avoir effectivement rappelé ce débat à travers les séries télé, débats qui ne laissent personne indifférent. L'effet miroir, votre effet miroir, une chronique à réécouter en podcast sur le site de l'émission, ou alors en rediffusion tout à l'heure entre 2h et 3h dans la nuit de samedi.
Je vous réveillerai.
Vous êtes bien dans une heure en série. Là, on a eu peur, hein. Sur France Inter. Là, on a eu les froids, hein, quand même. C'était plutôt Freddy Krueger dans les... Voilà. Avec Ava Cahen, Marianne Lévy et Benoît Lagan, c'est l'heure du troisième débat. Falcon et le soldat de l'hiver, une série américaine en 6 épisodes, diffusée sur Disney+, depuis le 19 avril. Le premier est noir, le second est blanc. Le premier est capable de voler, le second possède un bras en vibranium. Enfin, je ne sais pas très très bien ce que c'est. Le premier est un légendaire membre des Avengers. Oh, je sens qu'il pense à des choses.
Moi aussi, ça m'a fait.
Le second a un lourd passé des soldats à la solde de Hydra. Le premier a reçu des mains de Steve Rogers le bouclier du Captain America. Le second lui reproche de l'avoir refilé à un autre Captain America qui n'a pas l'air vraiment taillé pour la responsabilité. Bref, c'est faisant fi de leurs nombreuses dissensions, on l'aura compris. Ces deux-là vont devoir faire équipe pour lutter contre un groupe de révolutionnaires en quête d'un sérum pouvant donner naissance à des super soldats.
Être l'héritier de ce bouclier, c'est compliqué.
Le monde va mal. Les gens sont perdus.
Ils ont besoin de quelque chose qui les protège. Un symbole qui les rassemble.
Alors, c'est quoi le plan? T'as pas de plan.
Génial.
Je serais curieux de savoir ce qui se passe dans ta tête de cyborg.
Il vaut mieux pas, non?
Oh là, ça travaille dur. Je vois toute la mécanique. Oh, un problème technique. Il y a le feu là-haut.
Ah, t'es vraiment lourd.
On l'a entendu, c'est une série qui mise sur les dialogues.
Ah ouais, surtout en VF.
C'est un inédit Bergman, hein, quand même, c'est... Oh, ta tête de cyborg et tout ça. Crypto-gay ou pas crypto-gay, des garçons tellement en collant moulant qui passent leur temps les uns avec les autres, quand même, à voir leurs bras en vibranium, hein. À vous de me le dire. En tout cas, après Vendavision, une nouvelle série inspirée par l'univers Marvel et celui des Avengers, on a perdu Benoît Lagarde, si quelqu'un le retrouve. Prière de nous le ramener, nous n'avons vu que les 4 premiers épisodes. Falcon et le soldat de l'hiver est une série de Malcolm Spellman, producteur et scénariste sur la série Empire. Elle réunit Sebastian Stan, Anthony Mackie et Daniel Brühl. Marianne, je sais que les garçons en collant moulant, en latex, ne vous laissent pas complètement indifférente, mais c'est à la professionnelle que je m'adresse, bien évidemment. Comment avez-vous trouvé cette série Falcon et le soldat de l'hiver?
Xavier.
Marianne.
Xavier.
Marianne.
Xavier.
Marianne.
À votre contact, je me ramollis dangereusement. Je file même du mauvais coton. Parce que oui, je l'avoue, je me suis laissée aller au plaisir du maxi-bol de pop-corn et de la feel-good télé. Pourtant, a priori, hein, passer du temps avec ce faucon en collant... comme vous le dites, là.
Oui, enfin, voilà.
Passer du temps avec ce faucon, quand t'as pas une relation hyper intense avec Captain America, Captain America, c'est compliqué. Mais ces gars-là, ils m'ont eu, pas avec leur castagne de Playmobil sous en fait. Hein. Oui, les amateurs de Too Much vont se régaler, mais avec leur En Thérapie, revue et assaisonnée à la sauce super-héros.
Ah, je l'avais pas vu comme ça, mais
c'est maintenant... Pas ça, hein. Ouais. C'est pas facile tous les jours, hein, la condition de super-héros, il faut le dire. Dans le cas d'un homme oiseau, arme létale, qui doit repasser impec sa chemise avant d'aller au boulot, on peut même parler de défi. Cette approche analytique, c'est une manière très maligne d'actualiser une formule binaire où tout est noir et blanc et jamais rien n'est gris. Oui, il sera question de mal, oui, il sera question de bien, de méchant et de gentil. Sur le fond, ben, il n'y a pas trop de fond, hein. Mais la forme est belle. Les comédiens font leur job en collant moulant, sans short à paillettes malheureusement. Et en ce moment, je trouve que c'est assez thérapeutique pour nous aussi de passer du temps avec des gars qui promettent une réponse simple dans un monde où tout est compliqué.
Je vous adore. On le surnomme Latex Boy, hein, dans les couloirs de France Inter. C'est notre super héros. Il passe son temps dans les cabines téléphoniques à tourner sur lui-même pour laisser apparaître un costume très sexy. Benoît Lagane, Falcon et le soldat de l'hiver.
Alors, j'ai passé plutôt un moment sympathique, hein, devant cette série. Après, ce sera pas ma série de la semaine, ce sera pas ma série de l'année non plus. En fait, c'est l'antithèse de WandaVision qu'on a vu il y a pas si longtemps sur Disney+, autre série Marvel, qui était une série qui pouvait intéresser tout le monde, même ceux qui ne connaissaient rien à l'univers Marvel. Là, pour ceux qui connaissent rien à l'univers Marvel, alors on peut y rentrer dans l'histoire, hein. C'est pas très compliqué, hein. On comprend assez vite.
C'est faussement compliqué.
Mais c'est faussement compliqué, en fait, c'est assez simple.
Deux mecs qui courent après un sérum.
Bah, voilà, j'ai l'impression qu'il faut avoir Bac plus 5 quand même en Avengers.
Mais je pense que pour ceux qui aiment les Avengers vont peut-être se régaler par rapport au clin d'œil, etc. Et peut-être pas, même, peut-être qu'ils vont trouver ça un peu mou, du genou. Cette aventure.
Je suis content que vous ayez fini votre phrase.
Tout ça pour dire que...
On n'est pas du tout sur France Inter, là.
Tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est intéressant, en fait, dans cette série, c'est qu'elle prépare, en fait, la future trilogie, ou je sais pas combien de films il y aura, avec les New Avengers. Donc, en gros, on voit bien que cette série, elle nous prépare le terrain à ça. Et c'est assez clair. Ensuite, ça ressemble à quoi? Effectivement, ça ressemble à l'arme fatale en super-héros, au départ, un peu, comme ça, le duo.
C'est ce qu'on appelle le buddy movie.
Voilà, je dis mauvaise. Et puis ça devient l'agence tout risque, quoi, au final. Parce que, comme on l'entendait dans la bande-annonce. Comme on l'entendait dans la bande-annonce, t'as un plan, non, t'as pas. J'aime bien qu'un plan se déroule sans accroc, comme il disait Hannibal dans l'agence tout risque. Donc, pour moi, c'est exactement ça. Donc, on a le même plaisir à regarder cette série qu'on avait le plaisir de regarder l'agence tout risque. C'est-à-dire que c'était pas très, très. Ça allait pas très, très loin. C'était juste fun. Et puis, il y avait surtout plein de scènes d'action. Et ça, on aimait bien, en fait. Et bon, les scènes d'action, qu'elles sont quand même d'un autre niveau que dans l'agence tout risque, là, quand même.
Nous sommes un peu d'accord. À Vakaine, il ne reste plus que votre expertise, quand même,
oui,
sur les garçons moulants.
Alors, moi, je suis très mauvaise en Avengers, j'y comprends rien, j'y connais rien, et justement, c'est ce que j'aimais dans WandaVision, c'est que ça fédérait beaucoup plus largement, et donc je suis plus sensible au clin d'œil à ma sorcière bien-aimée qu'à celles qui sont faites ici à Thanos et son Snap, qui n'est visiblement pas une application à la mode, donc voilà. Donc après,
voilà. Thanos a éradiqué la moitié de la population terrestre il y a quelques temps, et puis elle est revenue, la population terrestre.
Bon, voilà, donc ça
parce
se passe
qu'il
un
nous
petit
manquait.
Peu comme ça.
Voilà.
Non, mais c'est la crise, c'est ce que disait Marianne. Voilà, c'est la crise des super-héros. Ils n'ont plus la cote. Soit ils font désormais partie du patrimoine, soit du commun des mortels. Et c'est ce qu'on voit dans l'épisode 1, hein, par exemple. On refuse carrément un prêt bancaire à Falcon, mais le banquier lui réclame quand même un selfie, hein, donc comble de l'ironie. Et le soldat de l'hiver, lui, vous l'avez dit, commence une thérapie parce qu'il en a gros sur la patate. Donc voilà, c'est précarité psychologique, précarité économique. Ça, c'est le monde post-éclipse, hein, j'ai l'impression qu'on nous présente. Alors après, la série joue en fait sur deux tableaux. D'un côté, elle se présente comme une série d'action pure, vous l'avez dit, avec combats dans les airs, au sol, sur le toit d'un gros camion, etc.
Un peu artificiel les combats, vous n'avez pas eu comme moi la sensation
un peu jeu vidéo.
Ouais. Ouais. Mais ils venaient de nulle part, ils étaient justifiés par rien quand même.
Ouais, mais on est content de les voir.
Mais moi, ce qui m'intéresse plus, effectivement, c'est le côté, c'est quand la série essaye de tendre vers le thriller terrien, vers le drama humain, puisque on est explore un peu plus la psychologie donc et les obsessions des super-héros. Et puis il y a ce nouveau Captain Américain là, John Walker, qui dit « Je n'ai pas de super-pouvoir, mais ce que j'ai, c'est du courage ». Donc on a envie d'y croire nous aussi. Que reste-t-il du leg des Avengers? J'ai l'impression que c'est ça, hein, la question que pose la série, si je suis pas trop bon, voilà, à côté de la plaque. Effectivement, j'aime bien le côté buddy-série, les muscles, les vannes et les copains. Comme toi, Benoît, c'est pas une série qui me passionne, mais c'est pas du tout un flop non plus. Voilà.
Point juste intéressant sur Captain America. Là, on a vu 4 épisodes. Enfin, quand on arrive au 4e épisode, il se passe quand même quelque chose autour de ce Captain America. Et je trouve que ça dit en creux quelque chose sur l'évolution du héros américain. Et ça, ça devient intéressant à ce moment-là.
Je suis d'accord avec vous, sauf qu'il reste 2 épisodes.
Oui, donc voilà, on peut pas dire quand même que
les scénaristes aient précipité effectivement les choses un peu intéressantes. Bon, donc une longue bande-annonce pour la prochaine série des Avengers, comme nous l'avons tous remarqué. Et si quelqu'un sait ce qu'est le vibranium,
s'il vous plaît, écrivez-nous.
Voilà, parce que là, vraiment, on est 4 autour de cette table et personne ne
sait. Il a de la force dans le bras.
Qu'est le vibranium, même si on a effectivement de très mauvaises idées. Ça, là, ce qui nous passe en tête. Par David Bowie. Est-il besoin de préciser cette voix magnétique, sensuelle, celle de David Bowie? C'est assez drôle parce que la semaine prochaine, on en parlera, puisque c'est une grande partie de la bande originale d'une série que nous évoquerons, qui est Moi, Christiane F. Et effectivement, David Bowie hante, j'allais dire, toute cette série. Mais là, pour l'instant, c'était Heroes, un titre écrit en 1977 par David Bowie et Brian Eno, extrait de l'album éponyme. Heroes renvoie justement à la période berlinoise de son auteur. Succès relatif, pour ne pas dire discret, lors de sa sortie, le titre n'a cessé pourtant de s'inscrire au panthéon de l'œuvre de David Bowie. Il est d'ailleurs à ce jour le deuxième titre le plus repris de son créateur, dont une sublime variation signée en 1980 par Blondie.
France Inter. Une heure en série.
Et on a du temps pour le plateau télé. Nous allons commencer. Alors quand je vous dis du temps, c'est pas la peine non plus de commencer à me raconter votre vie. Hein. Et nous commençons avec Ava Cahen qui va nous parler de Confiné ES.
Et oui, c'est ça.
Une série sur Canal+.
Absolument, une mini-série même qui décline plusieurs situations de confinement sur 6 épisodes. Et alors j'espère que vos vies de confinés n'ont rien à voir avec celles des personnages de cette série qui est acide, qui est caustique et qui aborde tout un tas de sujets de société et d'actualité. Alors c'est pas réjouissant, je le fais dans le désordre. Les privilèges, les abus sexuels, la dépression généralisée, l'escorting, le kidnapping de personnes âgées, voilà, donc sympathique. Vous aviez parlé il y a quelque temps avec enthousiasme de la série Staged qui reprend le principe des conversations Zoom.
Sur Canal également.
Exactement. Ici, la démarche, elle est totalement différente. Hein. Les épisodes se présentent plutôt comme des courts-métrages distincts les uns des autres. La seule donnée commune, c'est le confinement, donc le huis clos. Et je dois dire que c'est plutôt bien vu, assez original. Que se passe-t-il à l'intérieur quand il ne se passe rien dehors? C'est la question qui est posée en sous-titre. Et ça donne donc 6 contes contemporains qui flirtent avec l'horrifique. 6 tragicomédies dans lesquelles on retrouve des personnages souvent bourgeois, plutôt archétypaux, qui se retrouvent confrontés à eux-mêmes et qui vont finalement tomber le masque. On a un DJ style David Guetta en manque d'inspiration qui fait des lives un peu minables pour faire danser sa communauté. Un couple de retraités qui vit seul dans une superbe maison et qui cherche de la compagnie par tous les moyens. Un couple de gamers youtubeurs qui n'arrivent pas à communiquer sans les écrans interposés. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Il y a un casting de stars en plus. Vincent Cassel, William McGill, etc., etc. C'est une proposition. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai aimé le caractère rappeux et effronté de cette série. Donc voilà, c'est une curiosité à voir sur MyCanal.
Merci beaucoup, Confiné et ES sur MyCanal. Marianne, qui a presque tout aimé ce soir et qui continue avec The Bold Type.
Pourquoi
disponible sur Prime.
Tout aimé, dites-le, Xavier.
C'était j'ai pour votre réputation.
Aimé.
Voilà,
tout.
Allez-y, parce que le temps file, chère Marianne.
Xavier, ce qui est rare est cher et ce qui est très rare est hors de prix. Non, je ne me lance pas dans un cours d'économie. Je constate simplement que les hugs sont devenus des denrées rares à la valeur supérieure à celle du kilo de caviar. Donc ce soir, je vous propose un plateau « J'embrasse et je suis ». Plutôt, elles embrassent et elles sont. Elles, ce sont les 3 héroïnes d'une série pop et politique dont la dernière et 5e saison vient d'être annoncée pour le mois de juillet. Quitter Sutton, Jane et Kat va être triste parce que ces 3 New-Yorkaises ont fait souffler un vent de fraîcheur féministe sur les écrans. Plafond de verre, sororité, sexualité, diversité, tous les sujets sont embrassés dans les couloirs d'un magazine féminin engagé. On rit, on pleure, mais surtout on réfléchit. Et ça fait un bien fou. The Bold Type, c'est une passionnante comédie romantique d'aujourd'hui.
Et voilà, j'ai bien dit, vous avez tout aimé ce soir. Merci pour coup, pardon, chère Marianne.
Et vous savez quand même, l'essentiel c'est toute l'affection que je vous porte, Xavier.
D'accord, vous n'êtes pas obligé de failloter à l'antenne, mais je le prends quand même, parce que ça fait toujours plaisir. Il me reste une poignée de secondes pour vous recommander l'excellent numéro des Inrecuptibles cette semaine, consacré aux séries télé, voilà, avec Télérama, un des journaux qui a vraiment affirmé l'importance de la série télé depuis de nombreuses années, sous les plumes d'Olivier Joyard, par exemple. Alors, c'est Tahar-Raïm dans Le Serpent, on en parlera dans 3 semaines, qui fait la une, mais il y a également Hippocrate, la saison 2, qu'on a tous adoré et qu'on continue d'adorer. Ouais. Et les nouvelles saisons de Handmaid's Tale, de Validé, mais également quelques séries qui vont arriver au printemps sur les chaînes The Nevers, Yellowstone. Donc voilà, un excellent numéro, une excellente interview de Thomas Lilti. Bref, formidable numéro des Inrecuptibles. Mais une heure en série doit s'achever, malheureusement. Je sais, c'est douloureux, chère Marianne. Merci à vous tous, à Ava Cahen, Marianne Lévy et Benoît Lagan d'y avoir participé. Et surtout, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté entre 2 éclats de rire. Enfin, nous surtout. Nous vous avons recommandé.
Oui.
Veneno sur Brut, Bagdad Central sur Arte, Falcon et le Soldat d'hiver sur Disney+. La semaine prochaine, nous évoquerons la géniale carrément Craignos sur France TV et Les Irréguliers de Baker Street sur Netflix. Rendez-vous demain avec Jérôme Garcin. pour un masque et la plume consacrée à la littérature. Ils parleront d'ailleurs du nouveau roman de Jonathan Coe, absolument formidable, Billy Wilder et moi. Une heure en série, je vous rappelle, La Règle du Jeu, une émission à réécouter en podcast, en rediffusion dans quelques heures, entre 2h et 3h du matin. Il y a un site internet, vous retrouverez toutes les références des séries que nous avons évoquées, ainsi que la programmation musicale, et envoyez-nous du courrier, bien évidemment. Une émission réalisée, comme toujours, par Marie-Annick Rimbaud, programmation musicale assurée par Muriel Pérez. J'ai préparé l'émission avec Amel Kaldi et Marc Gopage. Et ce soir, à la technique, l'excellent Tristan Gradalon.